Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel, qui sera continuée avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter d'abord des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie a été élue comme membre du conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017 jusqu'à 2021. L'Indonésie, les Philippines et la Malaisie organiseront une réunion trilatérale à Manille. L'Indonésie et Suède développent un système de navigation numérique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie a été élue comme membre du conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017 jusqu'à 2021, qui a eu lieu à la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris, la France, le 8 novembre 2017. L'Indonésie, l'Inde, le Japon, la Chine, les Philippines et le Bangladesh qui ont été élus comme membres du conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017 jusqu'à 2021 au groupe Asie-Pacifique. Dans l'élection fermée, l'Indonésie a réussi à obtenir 160 voix et obtenir la troisième place dans le groupe Asie-Pacifique. L'ambassadeur extraordinaire est plénipotentiaire et aussi représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'UNESCO, M. Hotmangaraja Panjaitan a déclaré jeudi que l'élection de l'Indonésie en tant que membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017-2021 fournirait un espace stratégique à l'Indonésie pour contribuer à définir les normes établies par l'UNESCO. Il a ajouté que l'élection de l'Indonésie au Conseil exécutif de l'UNESCO est très stratégique pour l'intérêt national parce que les pays membres du Conseil exécutif de l'UNESCO possèdent une meilleure chance d'exprimer leurs intérêts et de prendre part aux décisions de l'UNESCO. Ceci est également en accord avec les normes de l'intérêt de l'Indonésie dans le domaine de travail de l'UNESCO, principalement dans le domaine de l'éducation et de la culture. L'Indonésie organisera une réunion trilatérale avec les Philippines et la Malaisie pour discuter de la lutte contre le terrorisme le dimanche 12 novembre 2017 en marge du sommet de l'ASEAN à Manille. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a dit jeudi à Jakarta que la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, représentera l'Indonésie dans la réunion informelle trilatérale qui était la réalisation de la réunion trilatérale qui a eu lieu aux Philippines en juin, quand il y a eu le problème de la sécurité à Marawi, les Philippines du Sud. Selon Arman Atanasir, l'un des objectifs de la réunion trilatérale aux Philippines est de discuter de la situation à Marawi. Dans les dernières semaines, il y a des développements positifs à Marawi et lors de la réunion trilatérale, les Philippines présenteront son rapport relatif à ce qui se passe. Le premier ministre cambodgien Hun Sen a exprimé sa gratitude et a salué la contribution de l'Indonésie au processus de paix et réconciliation au Cambodge à travers l'accord de paix de Paris. C'est ce qu'a déclaré Hun Sen lors de l'accueil de la visite de l'ambassadeur d'Indonésie à Phnom Penh, Pitono Purnomo, qui mettra fin à ses fonctions dans ce pays à la fin de novembre 2017. Hun Sen a affirmé à Pitono Purnomo par des communiqués de presse de l'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh que le Cambodge n'oubliera jamais le rôle et la contribution importante de l'Indonésie dans la réalisation de la paix et de la réconciliation au Cambodge. Par ailleurs, Hun Sen considère une grande importance de la coopération entre l'Indonésie et le Cambodge dans le domaine de la défense qui se développe bien, qui n'est pas largement possédé par le Cambodge avec d'autres pays. En outre, pour encourager le développement des relations bilatérales Indonésie-Cambodge, Hun Sen espère que la mise en œuvre de la science de la commission mixte Indonésie-Cambodge et la visite réciproque du président de l'Indonésie au Cambodge, après qu'il a visité l'Indonésie pour assister à la conférence afro-asiatique en avril 2015. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. La navigation aérienne de la Direction générale de l'aviation civile, ministère des Transports, en collaboration avec l'autorité suédoise de l'aviation pour développer un système de navigation aérienne numérique. Le directeur de la navigation aérienne, M. Yudi Sari Sitompul, a déclaré jeudi à Jakarta qu'il était nécessaire de développer le système de navigation aérienne indonésien dans le sens numérique en raison de l'augmentation du trafic ou de la circulation aérienne en Indonésie. L'un des indicateurs est l'inclusion de l'aéroport international Soekarno-Hatta comme l'un des 20 aéroports les plus fréquentés du trafic aérien mondial au cours de la période 2010 jusqu'à 2015. Par le Conseil de l'aéroport international. Il a dit sa partie de la direction de la navigation aérienne a salué la coopération du gouvernement suédois. Si le système opérationnel de navigation de vol est fait avec un système de technologie numérique moderne, cela est capable de réduire les coûts de navigation de vol, de sorte que le fonctionnement de l'aéroport est plus efficace. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a estimé que la croissance économique atteindra 5,1% bien que jusqu'à la fin du troisième trimestre, la nouvelle économie enregistrait une croissance de 5,03%. Il a dit jeudi que la condition économique jusqu'à la fin de l'année pourrait être soutenue par la croissance des investissements et exportations qui ont augmenté au troisième trimestre de 2017. Selon les données du Bureau central de statistiques, la croissance économique au troisième trimestre 2017 a atteint 5,06%, qui est soutenue par la croissance des exportations à 17,27% et la formation de capital brut fixe de 7,11%. Le Comité économique et industriel national, ou KIN, étudie la possibilité de développer une centrale nucléaire en Indonésie en menant une étude comparative aux États-Unis. Zulnahar Usman, le président du groupe de travail sur l'énergie et les ressources minérales de KIN, a déclaré qu'une étude comparative avec les États-Unis pourrait être la référence si l'Indonésie considère de construire le central nucléaire comme alternative à la préparation des centrales au charbon, au pétrole et gaz. Zulnahar Usman a déclaré récemment que la délégation de KIN, du groupe de travail sur les ressources énergétiques et minérales dirigé par Zulnahar Usman, effectue une visite de travail au premier grand laboratoire nucléaire des États-Unis, le laboratoire national d'Argonne. Au cours de cette visite, la délégation du Comité économique et industriel national est reçue directement par Dr. Jordi Roglen Riba, chef de la division du laboratoire national de génie nucléaire Argonne, et plusieurs autres membres du personnel de la division de génie nucléaire. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire ayant pour titre « La visite d'État de Donald Trump en Asie ». Après sa visite au Japon, le président des États-Unis a effectué une visite d'État en Chine, puis en Russie, au Vietnam et aux Philippines. La question est pourquoi, dans sa première tournée en Asie depuis qu'il est devenu président, Trump n'a pas visité l'Indonésie. Pour Donald Trump, sa première visite était apparemment plus dirigée vers la région de l'Asie Est et non vers l'Asie du Sud-Est ou l'Asie du Sud. Le Japon a été choisi comme premier pays. Il y a probablement deux raisons principales pour lesquelles le pays de Sakura est la première priorité. Pour l'Amérique, le Japon est un pays directement en face de la Corée Nord, en plus de la Corée Sud, bien sûr. La visite au Japon, en outre d'être capable d'être vue d'un point de vue économique, contient également une approche de sécurité. Après le déclin du Japon dû aux attentats de la bombe atomique Nagasaki et Hiroshima, les États-Unis sont un pays qui soutient le Japon, y compris du côté de la défense. La Chine et la Russie, en tant que prochains pays visités, ont certainement une position stratégique pour les États-Unis. Les deux géants asiatiques, en particulier la Chine, ont un énorme pouvoir économique et commercial. Maintenir de bonnes relations avec Pékin pour Washington est un mélange de concurrence et de stratégie de coopération, un concurrent embrassé à coopérer. La question est pourquoi Trump préfère le Vietnam et les Philippines sur l'Indonésie. Lors d'une visite au Vietnam, Trump assistera au sommet de l'APEC à Da Nang, tandis qu'aux Philippines, le président des États-Unis participera à une conférence spéciale qui se tiendra en plus des Philippines et des pays du Pacifique. Outre ces deux événements, le Vietnam et les Philippines sont des partenaires stratégiques des États-Unis dans la stratégie géopolitique de la mer de Chine méridionale. Les deux pays, le Vietnam et les Philippines, sont face à face dans le conflit de l'archipel Spratly avec Pékin. Par conséquent, pour maintenir l'équilibre, Washington voit le Vietnam et les Philippines stratégiquement face à Pékin dans la mer de Chine méridionale. Dans cette perspective, on peut expliquer pourquoi Donald Trump ne visite pas immédiatement l'Indonésie lors de son premier voyage en Asie. Cher ami, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 novembre 1928, Hirohito a été assermenté en tant que 124e empereur japonais. Hirohito, ou connu comme l'empereur Showa, était le 124e empereur japonais. Il a été couronné comme empereur le 25 décembre 1926 après le décès de son père, l'empereur Taisho. Il a été officiellement inauguré le 10 novembre 1928 à Tokyo. Dans l'histoire du Japon, il était empereur au pouvoir le plus long, 1926 à 1989, et était l'une des figures les plus importantes dans la Seconde Guerre mondiale et dans la reconstruction du Japon. Avant de monter sur le trône, il était connu comme le prince Meiji. Son règne en tant qu'empereur est connu comme l'ère Showa, qui signifie la paix et l'esprit brillant. Mais ironiquement, à cette époque, le Japon était impliqué dans une guerre contre la Chine et finalement dans la Seconde Guerre mondiale. En Indonésie, pendant l'occupation japonaise 1942-1945, Hirohito était connu sous le nom de Tenoheika, qui signifie « Sa Majesté l'Empereur ». Le 10 novembre 1945, le commencement de la guerre contre les forces alliées à Surabaya. La bataille de Surabaya est un événement historique de guerre entre l'armée indonésienne et les forces britanniques. Ce grand événement a eu lieu le 10 novembre 1945 à Surabaya, Javaès. Cette bataille était la première guerre des troupes indonésiennes avec des troupes étrangères après la proclamation de l'indépendance indonésienne et l'une des plus grandes et des plus lourdes batailles de l'histoire de la Révolution nationale indonésienne qui devient le symbole national de la résistance indonésienne au colonialisme. Le 10 novembre 1963, le premier Ganefo a eu lieu à Jakarta. Sous le règne de Bung Karno, l'Indonésie a choqué le monde dans le domaine du sport, c'est-à-dire avec la tenue de Ganefo ou Games of New Emerging Forces, un événement sportif similaire aux Jeux olympiques, mais les participants sont des pays sous-développés. Bung Karno a lui-même également déclaré que Ganefo a été tenu pour rivaliser les Jeux olympiques. Bung Karno a tenu Ganefo après les Jeux asiatiques de Jakarta en 1962, où il a interdit à l'Israël et à Taïwan de participer pour des raisons politiques. L'Indonésie a été suspendue du Comité international d'Olympique et a décidé de quitter le comité. Le premier Ganefo s'est tenu à Jakarta le 10 novembre 1963 et a été suivi par 2000 athlètes de 51 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe. Le motto dans ce Ganefo est « Maju terus pantang mundur » ou « En avant, ne retraite jamais ». L'organisation du premier Ganefo était boycottée par les pays occidentaux, même si elle était toujours en cours. Le Comité international d'Olympique a également averti les athlètes qui ont participé à Ganefo que ceux qui ont participé à Ganefo ont été interdits de participer aux Jeux olympiques. La deuxième Ganefo devait avoir lieu en 1967 au Caire, en Égypte, mais a échoué en raison de problèmes politiques, mais Ganefo d'Asie a eu lieu en 1966 au Cambodge et ses participants sont venus seulement des pays asiatiques. Le deuxième Ganefo asiatique devait avoir lieu en Corée du Nord, mais cela n'est jamais arrivé. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie soutient le processus de paix en Afghanistan. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le président afghan Mohammad Ashraf Ghani à Kaboul lundi 6 novembre heure locale. À cette occasion, Madame Retno Marsudi a discuté du suivi du processus de paix et de réconciliation en Afghanistan. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, mardi le 7 novembre 2017, mentionne que la visite de ministre Retno Marsudi en Afghanistan est un moment historique. Un certain nombre de questions ont été discutées lors de cette réunion à Kaboul. L'une d'elles concerne le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan. Ceci est la suite à la visite du président afghan Ashraf Ghani en Indonésie les 5 et 6 avril 2017. Au cours de sa visite, le président Ashraf Ghani a étudié l'expérience de l'Indonésie dans la gestion des conflits et du terrorisme. Lors de sa visite en Indonésie, le président afghan a rencontré des ulémas indonésiens, en particulier les ulémas de Muhammadiyah et de Nahdlatul Ulama, à la mosquée Istiqlal à Jakarta pour discuter de la modération de l'islam et de la tolérance. En outre, à cette occasion, l'Afghanistan veut apprendre de l'expérience de l'Indonésie dans la création et le maintien de la paix. Madame Retno Marsudi a exprimé l'engagement de l'Indonésie à soutenir le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan. Elle a affirmé, en tant que pays avec la plus grande population musulmane dans le monde, l'Indonésie était un exemple dans la création de la paix de l'Afghanistan. Après une rencontre avec le président Ashraf Ghani, la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a également rencontré le président du Haut Conseil de la paix, ou HPC, de l'Afghanistan, Mohammad Karim Khalili. Dans cette réunion, ils ont discuté de la préparation des visites du HPC en Indonésie à l'invitation du président Joko Widodo. Après avoir rencontré le chef du HPC, Madame Retno Marsudi a poursuivi la discussion avec son homologue afghan, Salahuddin Rabbani. Ils ont discuté de la coopération qui a encouragé le commerce, l'investissement et les relations socio-culturelles entre l'Indonésie et l'Afghanistan. Selon Madame Retno Marsudi, sa partie a également signé un mémorandum de coopération entre les entreprises d'État indonésiennes, BUMN, et ses partenaires d'Afghanistan pour un projet de développement aéroportuaire. En outre, BUMN et l'Indonésie ont également discuté de projets de construction de logements et de routes. Elle a ajouté que sa partie intensifie également la coopération dans divers secteurs, de l'économie à la construction de la paix et à la réconciliation. Du point de vue économique, il existe une relation croissante entre le secteur privé des deux pays. En outre, la ministre Retno Marsudi a également expliqué que sa partie avait signé un mémorandum sur la construction d'une clinique de santé dans le bâtiment du Centre islamique indonésien à Kaboul, ainsi que diverses coopérations dans le domaine de l'éducation. Après la visite, elle a affirmé que l'Indonésie et l'Afghanistan ont également engagé à améliorer le plan de coopération sur l'amélioration des ressources humaines dans l'application de la loi, les efforts de la déradicalisation du mouvement de l'extrémisme et le processus de paix. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
L'Indonésie a été élue comme membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017 jusqu'à 2021, qui a eu lieu à la 39e session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris, la France, le 8 novembre 2017. L'Indonésie, l'Inde, le Japon, la Chine, les Philippines et le Bangladesh, qui ont été élus comme membres du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017 jusqu'à 2021, au groupe Asie-Pacifique. Dans l'élection fermée, l'Indonésie a réussi à obtenir 160 voix et obtenir la troisième place dans le groupe Asie-Pacifique. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et aussi représentant permanent de l'UNESCO auprès de l'UNESCO, M. Hotmanga Raja Panjaitan a déclaré jeudi que l'élection de l'UNESCO en tant que membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période 2017-2021 fournirait un espace stratégique à l'UNESCO pour contribuer à définir les normes établies par l'UNESCO. Il a ajouté que l'élection de l'UNESCO au Conseil exécutif de l'UNESCO est très stratégique pour l'intérêt national, parce que les pays membres du Conseil exécutif de l'UNESCO possèdent une meilleure chance d'exprimer leurs intérêts et de prendre part aux décisions de l'UNESCO. Ceci est également en accord avec les normes de l'intérêt de l'UNESCO dans le domaine de travail de l'UNESCO, principalement dans le domaine de l'éducation et de la culture. L'UNESCO organisera une réunion trilatérale avec les Philippines et la Malaisie pour discuter de la lutte contre le terrorisme le dimanche 12 novembre 2017, en marge du sommet de l'ASEAN à Mani. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Arman Atanasir, a dit jeudi à Jakarta que la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, représentera l'UNESCO dans la réunion informelle trilatérale qui était la réalisation de la réunion trilatérale qui a eu lieu aux Philippines en juin quand il y a eu le problème de la sécurité à Marawi, les Philippines du Sud. Selon Arman Atanasir, l'un des objectifs de la réunion trilatérale aux Philippines est de discuter de la situation à Marawi. Dans les dernières semaines, il y a des développements positifs à Marawi et lors de la réunion trilatérale, les Philippines présenteront son rapport relatif à ce qui se passe. Le premier ministre cambodgien Hun Sen a exprimé sa gratitude et a salué la contribution de l'UNESCO au processus de paix et réconciliation au Cambodge à travers l'accord de paix de Paris. C'est ce qu'a déclaré Hun Sen lors de l'accueil de la visite de l'ambassadeur d'UNESCO à Phnom Penh, Pitono Purnomo, qui mettra fin à ses fonctions dans ce pays à la fin de novembre 2017. Hun Sen a affirmé à Pitono Purnomo par des communiqués de presse de l'ambassade d'UNESCO à Phnom Penh que le Cambodge n'oubliera jamais le rôle et la contribution importante de l'UNESCO dans la réalisation de la paix et de la réconciliation au Cambodge. Par ailleurs, Hun Sen considère une grande importance de la coopération entre l'UNESCO et le Cambodge dans le domaine de la défense qui se développe bien, qui n'est pas largement possédé par le Cambodge avec d'autres pays. En outre, pour encourager le développement des relations bilatérales Indonésie-Cambodge, Hun Sen espère que la mise en œuvre de la science de la commission mixte Indonésie-Cambodge et la visite réciproque du président de l'Indonésie au Cambodge, après qu'il a visité l'Indonésie pour assister à la conférence afro-asiatique en avril 2015. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. La navigation aérienne de la Direction générale de l'aviation civile, ministère des Transports, en collaboration avec l'autorité suédoise de l'aviation pour développer un système de navigation aérienne numérique. Le directeur de la navigation aérienne, M. Yudi Sarisitompul, a déclaré jeudi à Jakarta qu'il était nécessaire de développer le système de navigation aérienne indonésien dans le sens numérique en raison de l'augmentation du trafic ou de la circulation aérienne en Indonésie. L'un des indicateurs est l'inclusion de l'aéroport international Soekarno-Hatta comme l'un des 20 aéroports les plus fréquentés du trafic aérien mondial au cours de la période 2010 jusqu'à 2015. Par le Conseil de l'aéroport international. Il a dit sa partie de la direction de la navigation aérienne a salué la coopération du gouvernement suédois. Si le système opérationnel de navigation de vol est fait avec un système de technologie numérique moderne, cela est capable de réduire les coûts de navigation de vol, de sorte que le fonctionnement de l'aéroport est plus efficace. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a estimé que la croissance économique atteindra 5,1% bien que jusqu'à la fin du troisième trimestre, la nouvelle économie a enregistré une croissance de 5,03%. Il a dit jeudi que la condition économique jusqu'à la fin de l'année pourrait être soutenue par la croissance des investissements et exportations qui ont augmenté au troisième trimestre de 2017. Selon les données du Bureau central de statistiques, la croissance économique au troisième trimestre 2017 a atteint 5,06%, qui est soutenu par la croissance des exportations à 17,27% et la formation de capital brut fixe de 7,11%. Le Comité économique et industriel national, ou KIN, étudie la possibilité de développer une centrale nucléaire en Indonésie en menant une étude comparative aux États-Unis. Zulnahar Usman, le président du groupe de travail sur l'énergie et les ressources minérales de KIN, a déclaré qu'une étude comparative avec les États-Unis pourrait être la référence si l'Indonésie considère de construire le centrale nucléaire comme alternative à la préparation des centrales au charbon, au pétrole et au gaz. Zulnahar Usman a déclaré récemment que la délégation de KIN du groupe de travail sur les ressources énergétiques et minérales dirigé par Zulnahar Usman effectue une visite de travail au premier grand laboratoire nucléaire des États-Unis, le laboratoire national d'Argonne. Au cours de cette visite, la délégation du Comité économique et industriel national est reçue directement par Dr. Jordi Roglen Riba, chef de la division du laboratoire national de génie nucléaire Argonne et plusieurs autres membres du personnel de la division de génie nucléaire. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous présentons le musée de la lutte 10 novembre. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Le 10 novembre chaque année, en Indonésie, est célèbre comme Jour des Héros. La Journée des Héros a été organisée pour commémorer la bataille de Surabaya en 1945. La bataille de Surabaya est un événement historique de guerre entre l'armée indonésienne et les troupes britanniques. Ce grand événement a eu lieu le 10 novembre 1945 à Surabaya, Javaese. Cette bataille est la première guerre des troupes indonésiennes avec des troupes étrangères après la proclamation de l'indépendance indonésienne. Cette bataille sanglante à Surabaya a coûté des milliers de vies et a attisé la résistance populaire à travers l'Indonésie pour se battre. Le nombre de combattants tombés et de civils qui sont devenus des victimes, on se souvient du jour du 10 novembre comme jour des héros. Afin de commémorer la Journée des Héros, cette fois-ci, nous vous invitons à voyager au Musée de la lutte 10 novembre. L'emplacement est dans la zone du complexe Tugu Pahlawan, précisément à Jalan Pahlawan, Surabaya. Ce musée a été établi comme une forme de souvenir pour le courage du peuple Surabaya dans la bataille héroïque du 10 novembre 1945. Le musée, qui a été inauguré en 2000, est l'une des destinations touristiques de Surabaya. Vu l'extérieur, l'architecture du musée de la lutte 10 novembre est unique. Le bâtiment principal est en forme de pyramide, ressemble à une pyramide. L'unicité des autres bâtiments de ce musée est enterrée, seul le toit est visible. Ceci afin de ne pas perturber la vue du monument du héros. Pour entrer dans le musée de la lutte 10 novembre, vous ne payez que 5000 roupias. Une fois à l'intérieur, il y a des gravures sur le thème et des phrases encourageantes. Le musée de la lutte 10 novembre a en fait deux étages. Entrez au premier étage, vous pouvez voir 10 statues qui symbolisent la forme d'esprit de la lutte du peuple Surabaya. Il existe également plusieurs répliques de la situation à ce moment-là. L'un d'entre eux était une réplique lorsque Bung Tomo a prononcé un discours. Là, vous pouvez jouer l'enregistrement pour l'entendre en direct. Au deuxième étage, vous serez présenté avec diverses armes pendant la lutte, à partir de keris, de couteaux, de pistolets et d'armes à canon long. Vous pouvez également regarder les reproductions de photographies documentaires et les expositions de la collection de Bung Tomo. Il y a aussi un mini diorama dans la pièce contenant une réplique de la guerre. Fait intéressant, tous les objets de collection sont placés bien. L'intérieur de la pièce était magnifique. Pas étonnant que de nombreux touristes se sentent chez eux de visiter ce musée. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre, l'agriculture de Lembang gagne le prix de la FAO. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a donné le prix à Ulus Primawan, un agriculteur de Lembang dans la province de l'Ouest de Java en tant que paysan modèle de l'Asie Pacifique. Le prix a été décerné également à 4 autres agriculteurs d'Afghanistan, du Japon, du Népal et de Thaïlande lors de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation organisée par le bureau régional de la FAO pour l'Asie et le Pacifique à Bangkok en Thaïlande lundi le 16 octobre 2017. Le prix est décerné à Ulus grâce à son innovation dans le système de production horticole qui combine le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Selon lui, avec le secteur agricole intégré, les produits de légumes peuvent être plus respectueux de l'environnement et de la consommation. Parce que la bouse de BT peut être fertilisée, les déchets végétaux peuvent être des aliments pour les animaux. Oulous a expliqué que le sol volcanique fertile de Java West contribue à la haute qualité des produits agricoles en grande quantité. De plus, un jardin de superficie de 3 hectares est capable de produire jusqu'à 1,5 tonnes de haricots. En tant que chef d'un groupe de 20 membres, Oulous travaille dur pour s'assurer que le produit arrive sur le marché en temps opportun, donc la bonne quantité est à un prix du marché équitable. Avant la formation du groupe d'agriculteurs dans sa région, au hameau de Gandok, le village de Suntenjaya, le district Lembang, l'ouest de Bandung, dans la province de Java West, Oulous et d'autres agriculteurs n'ont pas d'autre choix que de vendre les produits de leur jardin à l'intermédiaire qui les vendent à nouveau. La chaîne d'approvisionnement devient longue et le prix reçu par les agriculteurs est très bas. En relation avec cela, le gouvernement, à travers le ministère indonésien de l'agriculture, encourage la formation de groupes d'agriculteurs. Cela est utilisé par Oulous et ses voisins. Maintenant, après la formation des groupes d'agriculteurs, les agriculteurs peuvent gagner les revenus jusqu'à 15 millions rupiah par mois, soit 4 fois plus qu'auparavant. C'est retard pour Oulous. Être un agriculteur exemplaire n'améliore pas seulement les revenus des agriculteurs, mais aussi partager des connaissances avec d'autres agriculteurs. En 2014, il a participé au programme d'essence agricole de la JICA et développé ses compétences en marketing. Dans la même année, et en 2015, Oulous a reçu un prix du gouvernement de l'Indonésie pour l'exportation des haricots de haute qualité. La spécialiste de la communication de la FAO de l'Indonésie, Siska Widiawati, a déclaré que la FAO dispose de 5 stratégies objectives de sécurité alimentaire sur lesquelles Oulous a été évalué de pouvoir les réaliser. Oulous a également apporté de bénéfices triple gagnants pour les agriculteurs et leurs familles ainsi que le groupe d'agriculteurs, à savoir l'augmentation de la production, l'augmentation des revenus des agriculteurs et l'amélioration de la nutrition. Secrétaire, c'était l'Indonésie Encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine musical de la province Sumatra Sud. La chanson Kabilebele, chantée par Agus Kori. La chanson a été créée par Akori Ali. Kabilébilé en Indonésie signifie camp. La chanson Kabilébilé raconte l'histoire de quelqu'un qui est seul parce qu'ils n'ont pas d'amis. On écoutera une chanson intitulée Des Cinq. L'auditeur, ainsi la chanson des Cinq chantée par Penta Boys, un groupe d'acapella d'Indonésie. Les grandes paroles de la chanson des Cinq sont faciles à comprendre. Des Cinq signifie inattendu. Cette chanson dit qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Certains prétendent être célibataires, mais apparemment âgés et ont 3 enfants. Cher ami, voici les 2 dernières chansons intitulées Sayang Selayak et Mpe Mpe Lenjer. Merci de votre fidèle attention. Au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Masuk ke mulut, matonyo mejem, mertuo lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak bae iwaknyo teraso. Digoreng pake minyak kelapa, jadi nambah lemak rasonyo. Samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Woi Bce, nak makan pempek dah?
Lanjo, kalau kau bayarnya. Rasanya
apa saja? Ayo Bce, siko-siko bae makan pempek.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à La Voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de La Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.